Bonjour Frédéric Souillot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Alors, avant de parler des Jeux Olympiques, on va quand même aussi parler de l'assurance chômage parce que c'est ça qui fait l'actualité ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a eu échec donc de négociations entre syndicats et patronat. Ça vous fait peur que le gouvernement reprenne la main?
Alors, ça ne me fait pas peur. Le gouvernement a déjà repris la main. Ils vont sortir un décret de carence. Décret que nous devrions discuter, mais c'était les informations qu'il faisait la semaine dernière.
Sur un allongement du délai de carence.
Alors, non, pas sur un allongement du délai de carence. Le délai de carence prend fin le 30 juin.
Ah, donc alors,
Le décret de
jointure
prend fin le 30 juin et le gouvernement nous a déjà annoncé par la presse qu'il allait
rallonge
prendre
de
un
6 mois.
décret à partir du 1er juillet. Donc, sinon, il y aurait carence pour les demandeurs d'emploi. Mais ce n'est pas l'échec de la négociation. On a déjà une convention d'assurance chômage. Cette convention d'assurance chômage, c'est décret de jointure. Et le gouvernement ne veut pas l'agréer, la mettre en place, parce qu'il pense que sur les demandeurs d'emploi de seniors de plus de 64, enfin de plus de 59 ans, il aurait voulu qu'on recule la durée d'indemnisation.
Oui, mais là, il s'apprête aussi à durcir les règles d'accès à l'indemnisation chômage. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une volonté. On n'est pas sur un statu quo, même si
Alors,
on prolonge
oui. Alors,
le cadre actuel.
C'est ce qu'on nous dit en termes de communication. Maintenant, la communication, on a bien compris aussi qu'elle était pour les agences de notation de la semaine dernière. Et puis, en vue des élections européennes qui auront lieu le 9 juin, maintenant, on verra bien sur le papier. Ce que nous, on va opposer au gouvernement, c'est de lui dire qu'il y a à peine 2 ans, ils ont fait une réforme de l'assurance chômage avec la contracyclicité, et elle aura 2 ans au mois de septembre. Bah, peut-être qu'il faudrait évaluer cette réforme de l'assurance chômage, cette loi, avant de dire on va encore en rajouter. Toutes les études sérieuses disent que réduire l'indemnisation des demandeurs d'emploi ou réduire la durée, c'est une mauvaise idée. Et c'est comme ça depuis 1999. Donc,
mais pour vous, donc en fait, le gouvernement veut faire quelque chose de moins sévère que ce qu'il communique.
Ben, dans tous les cas, nous, on va lui expliquer que remettre le projecteur sur les demandeurs d'emploi ou les gens qui sont au RSA, être au chômage ou au RSA, ce n'est pas un choix. Vous avez perdu votre emploi ou vous êtes dans... Quand on commence à vous rentrer dans la filière du RSA, vous n'avez peu de moyens d'en sortir. Ce qu'il faut aujourd'hui, seulement 47% des demandeurs d'emploi sont indemnisés. Demain, réduire ou rallonger...
Il veut passer à 12 mois, Gabriel Attal, de la période d'indemnisation de 18 à 12 mois.
Ben, je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu aussi par la presse, mais je n'ai pas eu de discussion directement avec eux. Et je leur expliquerai que dans tous les cas, c'est une très mauvaise idée. Ça créera quoi? Moins de demandeurs d'emploi indemnisés, plus de précarité. Et plus de précarité, ça n'a jamais conduit à la cohésion sociale de la République.
Alors lequel des leviers pour durcir les règles, s'il faut durcir les règles, est le plus acceptable? Il y a la durée d'indemnisation, il y a la condition d'affiliation, donc le temps qu'il faut avoir travaillé pour avoir accès aux indemnisations, ou le montant de ces indemnisations?
Alors je souris parce qu'aucun des leviers n'est acceptable. Je vous le disais en début de propos, quand j'ai vu la communication de Matignon disant une vraie réforme de l'assurance chômage. Ah, parce que tout ce qu'on nous a vendu avant, c'était pas des vraies réformes, c'était quoi, des essais, ou un leurre, j'en sais rien. Dans tous les cas, il y a une loi qui a à peine 2 ans, elle aura 2 ans au mois de septembre ou octobre. En attendant, l'assurance chômage, c'est paritaire. À l'UNEDIC, il y a une salle qui s'appelle André Bergeron, un de mes prédécesseurs, qui l'avait proposé en 1958. Donc sur l'assurance chômage et l'indemnisation, c'est notre protection sociale collective et on va se bagarrer.
Alors, on a le MEDEF qui dit que ce n'est pas la réforme la plus urgente. Vous êtes d'accord avec ça?
Le MEDEF est aussi conscient que réduire encore une nouvelle fois les droits des demandeurs d'emploi, ben, c'est jamais la bonne solution. Jamais.
Donc il y a d'autres choses à faire. Et Maryse Léon, la CFDT, dit que le gouvernement veut taper dans les poches des chômeurs. C'est quand même ce qu'il s'apprête à faire, selon vous? Il veut, c'est sous couvert justement de faire des économies, ce qu'on recherche en ce moment.
Mais Aujourd'hui, c'est tapé dans les poches de tout le monde. Bruno Le Maire est devenu le ministre de tout, et quand il a une idée, eh bien encore une fois, ça tombe sur les plus précaires. Alors, je ne dis pas que, il faut augmenter les impôts ou quoi que ce soit, mais on est pour, nous, un impôt progressif. Et maintenant, aller taper sur les demandeurs d'emploi, seulement 47% de ceux inscrits à l'assurance chômage sont indemnisés. Ils en veulent encore moins et ça fera encore plus de précaires.
Alors, il y a eu alors cet échec, en tout cas, le gouvernement qui a repris la main, ça a chopé sur quoi les négociations? Sur les seniors, c'était qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre syndicats et patronat ou même entre syndicats et entre vous?
Alors, là où ça a coincé, c'est sur retraite progressive. On était tous d'accord pour mettre une date de retraite progressive et aménager les fins de carrière des seniors. Je rappelle qu'on a le plus bas taux d'emploi des 59-64 ans de toute l'OCDE. Donc l'emploi des seniors, c'est une vraie priorité. Et on a construit notre accord sur retraite progressive, formation professionnelle tout au long de la vie, reconversion. Et au dernier moment, l'exécutif a dit, s'il y a retraite progressive, on n'agréera pas. Voilà pourquoi ça a chopé. Pour négocier, il faut être deux. Et quand il y a un troisième, notamment l'exécutif, ben ça ne va pas.
Et ça a changé parce que vous avez commencé à négocier aussi en novembre avec sous le gouvernement d'Elisabeth Borne et ça a changé depuis Gabriel Attal. Comment vous l'interprétez, cet échec?
Je l'interprète en se disant que l'exécutif, alors qu'il y aurait un vrai intérêt à ce qu'on redonne la place qui est la sienne à la négociation collective, ben j'ai l'impression qu'il n'en veut pas. Comme sur l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est paritaire et c'est comme ça depuis 1958. Maintenant que l'État veuille reprendre la main, ben c'est
Donc
une
c'est
très mauvaise
paritarisme
idée.
qui est en danger?
Ben, j'espère que non. Mais regardez, je vous écoutais parler fiscalité du logement juste avant. C'était la même chose l'année dernière avec Action Logement. Bruno Le Maire avait décidé qu'il voulait faire une association pour reprendre la main sur Action Logement. Mais aujourd'hui, Action Logement, organisme paritaire, s'il en est, est bénéficiaire. Et on sait construire du logement, on sait faire de la rénovation, on sait faire tout cela. Donc, quand le paritarisme fonctionne bien, ben, l'exécutif a une envie, c'est de reprendre la main sur les réserves. Ce sera la même chose
Oui,
avec les retraites
les retraites,
complémentaires et tout cela.
évidemment. C'est aussi un autre dossier. Bon, on passe à un autre dossier aussi qui est celui des Jeux Olympiques. On en parle parce que on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui se passent ces derniers temps. La semaine dernière, il y a eu cette grève des contrôleurs aériens, mais aussi cet accord de la SNCF. Vous avez un préavis de grève qui court toujours, qui
Du
couvre toute
19
la
mars
période
jusqu'au 8
olympique.
septembre.
Vous voulez pas faire de trêve olympique?
Alors, la trêve olympique, c'est les trêves olympiques, c'est comme les trêves des confiseurs. Regardez, demain, il y avait une mobilisation du syndicat FO de la police. Pourquoi? Ils avaient négocié notamment des aménagements pour les Jeux olympiques et ils avaient 12 décrets qui étaient bloqués à Bercy. Eh bien, ils ont dit qu'ils allaient se mobiliser, mettre 1 500 policiers devant Bercy pour leur expliquer que le ministère de l'Intérieur, c'est pas là. Et pour le coup, ben, tous les décrets sont arrivés fin de semaine, donc ils ont suspendu leur mobilisation. Et cette mobilisation, elle était pour les Jeux Olympiques. Ils négocient depuis l'année dernière, ils obtiennent une revalorisation de l'indemnité de panier ou alimentaire. 2-3 euros par CRS qui vont attendre et qui vont assurer l'ordre et la protection des Jeux
Mais ça
Olympiques.
veut dire qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient.
Oui, mais ils l'avaient déjà obtenu en négociant. Et à un moment, vous l'obtenez en négociant, mais Bercy bloque les décrets. Pourquoi, je n'en sais rien, mais pour négocier, il faut être deux, et quand on est trois,
Et une mobilisation de qui, enfin de quel secteur, de quelle profession vous appelez à se mobiliser
alors
en vue
moi,
de ces JO?
on n'appelle personne à se mobiliser. On a déposé ce préavis le 19 mars, qui était une journée de la fonction publique sur les salaires. Ce que l'on dit depuis, ben c'est qu'il faut négocier, il faut discuter. On ne peut pas se parer du dialogue social en permanence et puis dire bon, ben, on verra ça après les Jeux Olympiques. Regardez sur RATP, ils ont trouvé un accord. Et la première organisation syndicale chez les conducteurs, c'est la mienne. Et ils ont trouvé un accord, RATP, pour tous les JO, une compensation. C'était la même chose, on avait le même débat avant la Coupe du Monde de rugby. Est-ce qu'il y aura la Coupe du Monde? Est-ce qu'on aura des métros? Oui. Et à chaque fois, on se met autour de la table.
Mais c'est jouer sur la peur de la désorganisation.
Non, mais ce n'est pas nous qui jouons sur la peur. Pour le coup, que ce soit le président de la RATP ou les organisations syndicales, ils se mettent autour de la table. Souvent, c'est une communication dans la presse qui dit qu'il va y avoir mobilisation et que les JO risquent d'être entachés. On n'a pas envie de gâcher la fête.
Les cheminots, ils menaçaient quand même de faire grève. Il y a eu un accord la semaine dernière qui s'est passé sous les radars. Il remet quand même en cause notamment une partie de la réforme des retraites. Donc, les cheminots qui ont obtenu des accords de pré-retraite sur les postes pénibles beaucoup plus avantageux que ce qui avait été négocié pendant la réforme des retraites. Donc c'est le moment, enfin, que certains voient que c'est le moment de revenir sur des choses qui ne leur plaisaient pas, ils arrivent à faire pression.
Alors l'accord de la SNCF, c'est une belle avancée sociale, mais c'est toujours pareil, c'est un accord d'entreprise. Donc ils ont négocié et ils ont obtenu. Mais
oui, parce qu'ils ont un vrai pouvoir de blocage, et notamment pendant les JO, le gouvernement n'a pas tellement envie de voir la France bloquée, la France paralysée.
Est-ce que c'était lié aux JO,
leur discussion ? Il y a cette peur de dire, il y a cette menace qui plane.
Alors, ce n'est pas une menace. Hein. Si vous avez continué de pratiquer le dialogue social depuis l'année dernière, nous disons, il faut que les ministères discutent, ministère par ministère, avec les agents qui vont être réquisitionnés ou les transports publics comme SNCF ou RATP. Il y a eu deux accords la semaine dernière, un à la SNCF, un à la RATP, et ce n'est pas sous la menace, puisque dès l'année dernière, on disait discuter. Maintenant, dans les ministères publics, il y avait bien évidemment la gratification, mais on savait déjà, puisque Elisabeth Borne, première ministre, avait fait une circulaire en disant que ce serait 500, 1000 ou 1500. Bon. Mais il y avait aussi toutes les autres conditions, notamment comment fait-on pour faire garder ses enfants, les ouvertures de crèches, comment est-ce qu'on se déplace, puisque les réquisitions vont être un peu plus larges que l'Île-de-France, comment est-ce qu'on arrive à manger, à se loger et tout cela. C'est tout ça la discussion. C'est malheureux qu'on attende 100 jours avant les Jeux Olympiques pour dire « Ah, il y a de la menace, il faut qu'on lâche ». C'est pas normal.
Mais il y a toujours, vous avez toujours un site qui recense les personnes qui peuvent se mobiliser pour une grève pour les JO. Alors c'est dans les cheminots, c'est parmi les cheminots. Mais est-ce que il y en a 750, je crois, j'ai regardé ce matin. Vous les appelez toujours à discuter, en tout cas à négocier encore en vue d'obtenir des choses?
La pratique contractuelle et conventionnelle, c'est l'ADN de Force ouvrière. C'est on discute et on trouve des accords. Maintenant, je pense que les accords ont été trouvés. Regardez RATP, vous n'avez pas vu de préavis qui courait. Le préavis qui court, c'est pour la fonction publique. Et nous sommes premiers dans la fonction publique d'État, deuxième dans l'hospitalière et troisième dans la territoriale. Maintenant, ce préavis a été déposé le 19 mars pour aller jusqu'au 8 septembre. Pour protéger les uns ou les autres qui décideraient d'un mouvement social, pas forcément lié aux Jeux Olympiques, mais sur l'encadrement, les discussions qui auront lieu sur leurs conditions de travail.
Dans la fonction publique, on parle de la fonction publique hospitalière, vous sentez une mobilisation qui pourrait naître particulièrement parmi les...
Sur la fonction publique hospitalière, il y a 2 ans, on a négocié le Ségur, et il y avait 3 volets. Le premier volet du Ségur est passé, mais il reste le deuxième et le troisième volet du Ségur, et on change de ministre de la Santé tous les 6 mois. C'est un petit peu comme à l'Éducation nationale. Comment est-ce qu'on peut avoir une logique de fonction publique hospitalière, et comment, à chaque fois qu'on a une grande manifestation, une grande mobilisation internationale, on se dit « Ah ben, dans les hôpitaux, il y a moins de lits, il y a moins de choses. » Il y a des gens qui meurent aux urgences. Donc, sur l'hospitalière, ils vont être réquisitionnés. comment est-ce qu'ils font sur les réquisitions, comment est-ce qu'ils mettent...
Il va y avoir des primes de 500 à 1500 euros selon le,
oui, bien sûr, il y aura,
la hauteur de la mobilisation.
Et ça, c'est la gratification. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que la gratification. Comment est-ce qu'on a leurs conditions de travail? Le décret qui dit déplafonnement des comptes épargne-temps pour qu'ils puissent y poser leurs congés qu'ils ne pourront pas prendre. Vous l'avez vu, ce décret, vous?
Donc les décrets ne sont pas passés, c'est encore ce que vous venez nous porter. Il y a eu les contrôleurs aériens aussi la semaine dernière qui ont obtenu des concessions secrètes, c'est la une des échos ce matin. C'est le moment pour beaucoup de...
Les contrôleurs aériens, je ne sais pas si c'était avant les JO, mais c'était la semaine dernière, et ils avaient déposé un préavis pour le pont de la semaine prochaine. Et ils ont obtenu.
Alors, est-ce que s'il y a une mobilisation d'ampleur, ça pourrait nuire selon vous à l'attractivité de la France, des mouvements sociaux pendant justement les Jeux Olympiques? Ça vous fait peur ou au contraire, ce serait une bonne chose?
Non, mais moi ça ne m'inquiète pas, c'est le même débat. Regardez, on a eu la Coupe du Monde de rugby, Coupe du Monde de rugby.
Oui, les Jeux Olympiques, c'est quand même la plus prestigieuse des compétitions.
Oui, c'est la plus prestigieuse. Et alors? Coupe du monde de football, on l'a organisée aussi, et à chaque fois on nous dit « Ah oui, mais les syndicats français, vous allez mettre la pression ». À chaque fois, ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de sujet.
Donc il n'y aura pas de sujet.
Il n'y aura pas de sujet. Mais pour négocier, il faut être deux. Par contre, il faut nous inviter à discuter.
À la table des négociations.
Ben oui.
Eh bien, merci d'être venu en tout cas à notre table,
merci.
Maître Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. Merci à vous.
Merci à vous.